de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le gouvernement ne prévoit pas de renvoyer des étudiants indonésiens d'Australie. Les dirigeants des pays africains soutiennent le directeur général de l'OMS. Lors de la réunion de l'ASEAN, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a proposé des efforts de traitement du COVID-19. Remplir l'approvisionnement médical, l'Indonésie collabore avec 9 pays. Le Conseil de coordination des investissements a noté que le nombre de demandeurs de licences pour petites et moyennes entreprises restait élevé au milieu de la pandémie de COVID-19. Les acteurs du tourisme peuvent certainement être incités lors de la pandémie COVID-19. Voici le bulletin complet. Le gouvernement ne prévoit pas de rapatrier les étudiants indonésiens qui se trouvent en Australie, bien que le premier ministre australien Scott Morrison appelle des ressortissants étrangers à quitter le pays pour minimiser l'impact de COVID-19, comme l'a déclaré le porte-parole par intérim du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Teuku Faiza Shah, aux journalistes par vidéoconférence jeudi. Selon Faiza Shah, la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a notamment déclaré par téléphone à la ministre australienne des Affaires étrangères Marie Payne de comprendre l'anxiété des étudiants indonésiens concernant les déclarations du premier ministre australien concernant les ressortissants étrangers. Faiza Shah a également souligné que les représentants indonésiens en Australie étaient prêts à aider s'il y avait des étudiants qui rencontraient des problèmes pendant la période de quarantaine imposée dans le pays. Les dirigeants de pays africains apportent leur soutien au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce soutien a été apporté après que le président des États-Unis, Donald Trump, a critiqué et menacé de suspendre la contribution de l'Amérique à cette institution internationale. Mardi 7 avril, Trump a accusé l'OMS d'être trop concentré sur la Chine. Selon Trump, l'OMS a également donné de mauvais conseils sur la pandémie de virus maintenant connue sous le nom de COVID-19. Le président de l'Afrique du Sud est également le président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, a déclaré que Ghebreyesus avait fait preuve d'un leadership extraordinaire. Selon lui, depuis le début de la pandémie, le directeur général de l'OMS a réussi à faire face à une crise sanitaire mondiale sans précédent. Ramaphosa a déclaré jeudi 9 avril que l'Union africaine a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts du directeur général et de toute la famille de l'OMS, car il dirigeait l'effort mondial pour vaincre cette pandémie. Lors de la réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN qui s'est tenue virtuellement jeudi, l'Indonésie a proposé un certain nombre d'efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Dans la lutte contre le COVID-19, l'Indonésie a souligné l'importance d'appliquer les résultats des réunions des ministres de la Santé des pays de l'ASEAN et des ministres de la Santé de l'ASEAN plus 3 qui ont eu lieu le 7 avril. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de la présentation d'un communiqué de presse par vidéoconférence jeudi, a déclaré que l'Indonésie a souligné l'importance du protocole pour les puits transfrontaliers. En outre, l'Indonésie a également souligné la priorité de son engagement à garantir que la circulation des marchandises, en particulier des denrées alimentaires, des médicaments et du matériel médical, ne rencontrait pas d'obstacles. Par conséquent, la ministre Retno a proposé un accord sur la chaîne d'approvisionnement et le commerce pendant l'épidémie à soutenir lors du sommet ASEAN plus 3 le 14 avril 2020. L'Indonésie coopère avec au moins 9 pays pour assurer un approvisionnement régulier en matériel médical afin d'accélérer la manipulation de COVID-19. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une conférence de presse jeudi par vidéoconférence, a déclaré que l'aide de gouvernement à gouvernement provenait de 9 pays, à savoir la Chine, le Japon, l'Amérique, Singapour, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Émirats Arabes Unis. En outre, l'Indonésie a reçu et recevra le soutien de diverses organisations ou entités internationales, à savoir l'OMS, la BAD, l'AIEA, le PNUD, l'OIM, le Fonds mondial et l'UNICEF. L'Indonésie a également enregistré 42 aides d'organisations privées et non gouvernementales originaires de Chine, Singapour, Corée du Sud, Vietnam, France, Russie, Allemagne, Japon et Suède. Selon Retno Marsudi, l'aide la plus reçue à l'heure actuelle est les masques, les kits de tests rapides et les équipements de protection individuelle, EPI. Le Conseil de coordination des investissements note que le nombre de candidats aux petites et moyennes entreprises est resté élevé depuis janvier 2020. Au milieu de la pandémie de COVID-19. Grâce à la soumission unique en ligne, le plus grand nombre de candidats pour le numéro d'un registre commun d'entreprise NID pour les petites et moyennes entreprises a été enregistré en mars 2020, soit plus de 36 000. La porte-parole du Conseil de coordination des investissements, Tina Talisa, dans un communiqué de presse à Jakarta jeudi, a déclaré que les candidats NIB, spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises, dominent toujours avec un pourcentage supérieur à 50% du total des candidats pour le numéro d'identification d'entreprise. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative continue de suivre et de superviser diverses incitations pour que les acteurs du secteur du tourisme et d'économie créative poursuivent leur route et atteignent leurs objectifs dans le but de réduire l'impact de l'épidémie de COVID-19. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Vishnu Tama Kusubandio, a déclaré jeudi dans un communiqué à Jakarta que le ministère du Tourisme et de l'économie créative avait envoyé une lettre au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur et au ministère des Entreprises d'État pour assurer le suivi des politiques d'incitation du gouvernement au secteur du tourisme et à l'économie créative. Les incitations devraient alléger la charge et les coûts opérationnels des hommes d'affaires dans le secteur du tourisme et de l'économie créative, de manière à réduire les possibilités de licenciement des salariés du secteur. Les incitations prennent la forme d'allègements fiscaux accordés aux politiques du secteur financier par le secteur financier de la banque et le secteur financier non bancaire pour les débiteurs de l'industrie du tourisme et de l'économie créative. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Depok, Jawa West. La Faculté des sciences informatiques de l'Université d'Indonésie, en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université d'Indonésie, a développé l'application SIGAP comme une forme de contribution de l'Université d'Indonésie pour surmonter l'offre limitée de dispositifs médicaux, en particulier la réalisation d'équipements de protection individuelle EPI pour personnel médical. La doyenne de la Faculté des sciences informatiques de l'Université d'Indonésie, Mirna Adriani, dans sa déclaration écrite de mardi, a déclaré qu'en utilisant SIGAP, la réponse aux besoins en EPI de l'hôpital et à la disponibilité des stocks détenus par l'hôpital serait plus structurée et plus fiable. SIGAP est une plateforme Internet qui s'appuie sur des volontaires nommés par son institution pour communiquer régulièrement des données à SIGAP. Ensuite, l'info d'Ubud, Bali. Festival de jazz d'envergure internationale qui dure depuis 7 ans, de suite depuis 2013. Ubud Village Jazz Festival 2020 a été officiellement annulé en raison de la survenue de la pandémie COVID-19. Le directeur et cofondateur du festival de jazz du village Ubud, Anom Darsana, a déclaré jeudi dernier que la sécurité et la santé des visiteurs, des musiciens et de l'ensemble du comité étaient le principal objectif à prendre en compte, de sorte que son parti a dû décider d'annuler cet événement annuel. La dernière info est venue de Makassar, Sulawesi Sud. L'une des micro, petites et moyennes entreprises, Frown Indonesia, à Makassar, Sulawesi Sud, fabrique des équipements de protection individuelle, EPI, pour les travailleurs médicaux qui ont du mal à faire face à la pandémie de coronavirus COVID-19. Le fondateur de Frown Indonesia, Muhammad Fahriawan, à Makassar a déclaré jeudi que la production d'EPI avait été réalisée conformément aux règles standards et que les matières premières étaient importées de Java. Frown Indonesia produit au maximum 100 pièces d'EPI par jour. Le processus se fait en habilitant les tailleurs de la communauté environnante vivant à Perumnas Tamalate, district Rapuchini, Makassar. Il existe deux types de vêtements hazmat qui sont fabriqués, à savoir une utilisation unique et jusqu'à 3 fois, car le matériau est de 2 types différents. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 avril. On commence par le 11 avril 1919, l'Organisation internationale du travail a été créée. L'Organisation internationale du travail, ou International Labour Organization, ou abrégé en ILO, a été créée le 11 avril 1919. ILO, ou en anglais ILO, est l'une des instances sous les auspices des Nations Unies. Elle a pour objectif de fournir des conseils pour la création de lois du travail relatives aux droits et obligations du travail. Les efforts déployés par ILO, entre autres,
a conclu des accords sur les salaires, le nombre d'heures de travail et l'âge minimum et maximum des travailleurs, fournit des garanties de prévoyance vieillesse ainsi que des dispositions concernant les congés ou les vacances de fonctionnaires et a proposé que le pays membre détermine le droit du travail. Le 11 avril 1951, le général MacArthur a été libéré de son poste de commandant en chef de la guerre de Corée. Le président des États-Unis, Harry Truman, a libéré le général MacArthur de son commandement au sein des forces armées américaines qui opéraient à la guerre de Corée. Le président des États-Unis a pris cette décision à l'égard du débat houleux entre le gouvernement et l'armée sur le règlement du conflit coréen. Tandis que le président Truman a choisi la paix et est revenu au statu quo. Et le général MacArthur voulait prolonger le conflit, même en utilisant des armes nucléaires pour mettre fin à la guerre de Corée. Le 11 avril 1979, le président ougandais Idi Amin a été renversé. Le président ougandais Idi Amin était très autoritaire et répressif à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. L'économie de l'Ouganda, auparavant prospère, a été détruite après la politique de nationalisation de toutes les sociétés et activités étrangères dans son pays par Idi Amin et l'expulsion des non-autochtones hors de l'Ouganda. En raison de sa politique autoritaire, le peuple ougandais s'est rebellé. Ensemble avec l'opposition avec l'armée ougandaise de libération nationale, ainsi que des troupes tanzaniennes, ont attaqué l'Ouganda, puis ont encerclé la capitale ougandaise, Kampala. Enfin, le 11 avril 1979, cette attaque a contraint le président ougandais, Idi Amin, à perdre son poste et à s'enfuir en Libye avant de demander l'asile en Arabie Saoudite. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara. Namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita juara.
Indonesia juara.
Takkan ada yang tak bisa bila kita percaya. Jangan pernah kau menyerah untuk Indonesia juara. Satu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita. Oh, jiwaku,
Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici mon Indonésie et en titre, les entreprises d'État, BUMN, développent la numérisation et la transparence des données. Le ministre des entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre la compagnie d'État d'électricité PLN, la compagnie d'État du pétrole et du gaz PT Pertamina et Microsoft au bureau du ministère des entreprises d'État, mercredi à Jakarta. Dans sa déclaration officielle, Erick Thohir espère que cette collaboration peut être la première étape pour les entreprises d'État pour créer plus de valeur, soutenir la transparence des données en utilisant la technologie stratégique et l'efficacité. Selon Erick Thohir, la signature de ce protocole d'accord couvre quatre objectifs. Accroître la capacité de numérisation des entreprises d'État, améliorer la durabilité des entreprises d'État, les entreprises d'État en tant que pôle d'innovation et les entreprises d'État en tant que site de marketing mondial, soit écosystème partenaire. La signature de ce protocole d'accord est conforme à l'une des cinq priorités du ministère des entreprises d'État, à savoir le leadership technologique. Erick Thohir a expliqué que l'Indonésie compte 800 sociétés d'État, y compris des filiales. Si elle continue à utiliser des méthodes traditionnelles pour les gérer, les entreprises d'État peuvent être perturbées. Il a donc été décidé de nouer en partenariat avec Microsoft pour aider les entreprises d'État à développer et à optimiser les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet, des objets et le calcul haute performance. Erick a ajouté, Microsoft aidera la compagnie d'État d'électricité à développer le comptage intelligent, la gestion intelligente du réseau, la chaîne d'approvisionnement intelligente, le Big Data Analytics et le tableau de bord exécutif afin qu'il soit plus efficace et efficient. Cependant, Microsoft aidera Pertamina à travailler ensemble pour rentabilité de l'approvisionnement et de l'achat, pour rechercher des puits stratégiques et également pour développer des programmes philanthropiques tels que le projet All for Earth qui se concentre sur la durabilité et l'impact du changement climatique. En outre, Microsoft fournira également des programmes d'apprentissage à la compagnie d'État d'électricité et à Pertamina sur la technologie numérique et l'exploration de la mise en œuvre pour le développement des ressources humaines. Erick Thohir espère que cette collaboration aidera les entreprises d'État à développer la modernisation des infrastructures telles que la construction de centres de données via le cloud, la réarchitecture des applications et la valorisation des actifs de données. Cette collaboration devrait également améliorer l'efficacité des opérations des entreprises d'État, générer des revenus plus élevés, une rentabilité élevée, améliorer l'intégrité des données de l'amont vers l'aval et apporter une meilleure consolidation des données. Le protocole d'accord a été signé par Nike Widiawati, directeur général de Pertamina, Zulkifli Zaini, directeur général de la compagnie d'État d'électricité, Andrea Della Mater, présidente de Microsoft Asia Pacific, et Haris Ismi, président PT Microsoft Indonesia. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La fête traditionnelle de Kato Boko. Le gouvernement de la Régence de Maros dans la province de Sulawesi du Sud, par l'intermédiaire du département de la culture et du tourisme, est prête à intégrer l'objet touristique et la culture pour soutenir le programme gouvernemental Merveilleuse d'Indonésie. Et jusqu'à présent, nous sommes plus concentrés sur les attractions touristiques naturelles. Mais maintenant, des objets de tourisme culturel sont également développés pour se soutenir mutuellement. L'un des tourismes culturels qui survit encore et qui est maintenu pendant des générations est la fête traditionnelle de la récolte Kato Boko. Elle est encore préservée par l'acteur coutumier du royaume de Marusu, M. Abdul Waris Karaing Sioja, avec la communauté locale. Kato Boko est la fête culturelle réalisée une fois par an. Un symbole du début de la récolte et également montre une solidarité entre la noblesse et la communauté. En outre, cette activité traditionnelle vise également à résoudre les obstacles étant rencontrés par les agriculteurs, tels que les attaques de parasites, les sécheresses et les inondations. La fête traditionnelle de Kato Boko a lieu au palais Bala Lompoa Karaing Marusu, la régence de Maros, dirigée par le chef coutumier de Karaing Marusu. Cette année, elle a été tenue pendant 2 jours, du 2 au 3 avril 2019. Depuis le matin, les habitants de Maros, notamment à Kasikebo, dans le sous-district de Maros Baru, se sont réunis à la maison traditionnelle de Bala Lompoa, ke Karaingan Marusu. Les nobles du royaume Marusu portant des vêtements traditionnels Bugis Makassar et la communauté se sont dirigés vers les rizières coutumières appelées Toranu. Ils récoltent ensemble et ensuite les résultats de cette récolte ont été portés à la maison traditionnelle de Bala Lompoa ke Karaingan Marusu. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulée « La fête traditionnelle de Kato Boko ». Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde avec l'Indonésie en couleur, informant sur le festival Balenagi. Le 6 avril 2019, Antonius Gege Hajon, régent de Flores Est, a ouvert le festival Balenagi, ou abrégé en FBN, sur la plage Oa, village de la plage Oa, district Wulanggitang, Nusa Tenggara de l'Est. Selon Antonius Gege, le FBN 2019 avait pour but de soutenir le potentiel touristique religieux déjà connu par les touristes, à savoir la procession du Vendredi Saint ou la Semana Santa. De nombreux touristes viennent à la Rantuka pour assister à la procession du Vendredi Saint. À cause de cela, le festival Balenagi a été organisé afin que les touristes puissent ajouter à leur séjour à la Larantuka en observant les attractions artistiques et culturelles et en visitant le potentiel du tourisme naturel à Flores de l'Est. En outre, le festival sert également à inviter les habitants de Flores Est qui vivent en dehors de l'île à revenir, car le nom du festival signifie « rentrer chez eux ». Le festival Balenagi a lieu en avril. L'ouverture aura lieu le 6 avril à la plage Oa, Wulanggitang, et se terminera au village Lamawohon, Solor de l'Ouest, le 26 avril 2019. Ce festival Balenagi évoque toutes les choses, la nature, la culture et la religion, notamment la Semana Santa. Diverses activités seront organisées lors de ce festival, telles que des activités de football, de folie de plage et de surf. Une activité très intéressante dans ce festival était l'activité de tissage Lama Holot, à laquelle assistent environ 1500 participants de toutes les régions de Flores de l'Est. Le festival de tissage Lama Holot aura lieu le 23 avril à partir de 15h jusqu'au soir. Le même jour, il y aura également des attractions de tissage, des expositions de tissage, des expositions culinaires telles que le miel Leworok, le café Leworok, le café Hokkien et divers types d'aliments locaux. Les visiteurs peuvent déguster une variété de plats locaux. On va aussi lancer une exposition nationale sur l'enseignement et la formation professionnelle suivie par des universités et des établissements d'enseignement professionnel à Java, Bali, Makassar, Jakarta et Nusa Tenggara de l'Est dans le parc municipal Félix Fernandez Larantuka du 23 au 24 avril. Une vingtaine d'universités et d'institutions professionnelles participeront à cette exposition sur l'éducation et la formation professionnelle au niveau national. Afin de faire face à l'explosion de visiteurs, le gouvernement local a préparé des logements en guise de lieu de séjour, compte tenu du nombre limité de chambres d'hôtel à la Rantuka, qui ne sont qu'environ 500 chambres. Voilà l'Indonésie en couleur.
Buat ku menangis
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti. Fajar Bhakti est une chanson originale de Kroncong. Elle raconte de la belle matinée d'un village situé au bord d'une colline. Quand le soleil se levait, les paysans, hommes ou femmes, petits ou grands, étaient tout prêts à aller au champ. Ils ont heureusement accueilli la matinée. Le soleil n'atténue pas leur enthousiasme à lutter pour le bonheur. Et voici Sri Widadi chantant la chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti.
berjuang setiap hari demi bahagia bersama.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.